Kassa, dia, kassa. Toute parole est parole. Qui veut parler, doit parler clair et vrai. Dans cet épisode, nous allons parler d'intelligence artificielle. Nous allons parler de cette perspective en Afrique, du positionnement stratégique qu'il peut y avoir, des différents biais algorithmiques qui peuvent exister dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle, des éventualités de coordination internationale pour avoir une intelligence artificielle éthique et responsable. Mais pour parler de ces différentes choses, nous avons besoin d'un expert. Et comme expert, nous avons désigné Monsieur Seydina Moussa Ndiaye, qui est maître de conférence à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane au Sénégal. Il soutient également le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation en pilotant la transformation numérique du système d'enseignement supérieur sénégalais. Au niveau national, il est membre de plusieurs organes, dont le Conseil national du numérique, la Commission nationale de cryptologie, le comité de pilotage du projet de parc technologique numérique, le conseil d'administration du CENUM SA et a aussi été président de l'association sénégalaise pour l'IA. Monsieur Seydina Moussa Ndiaye est aussi un expert pour l'Union africaine pour la rédaction du livre blanc panafricain sur l'intelligence artificielle et intervient aussi, ou du moins a intervenu dans l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle auprès du secrétariat général des Nations Unies. Vous l'avez compris, nous avons quelqu'un de qualité, quelqu'un avec qui nous sommes ravis d'échanger et nous espérons que nous pourrons tirer un maximum d'enseignements et un maximum de ressources dans le cadre de ce podcast-là. Donc, comment allez-vous, Monsieur Ndiaye?
Je vais très très bien, Inous. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde.
Parfait. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir. D'entrée de jeu, on aimerait savoir votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé déjà à vous mettre dans l'intelligence artificielle, à apprendre ces différents sujets-là et à les enseigner aussi, et à avoir ces différentes positions-là d'un point de vue national et international?
Pour parler rapidement de mon parcours, hein, donc dès début des années 90, ça fait longtemps, 1990, en démarrant mon parcours universitaire, je me suis toujours intéressé en fait à l'informatique. Vers 93-94, en découvrant l'intelligence artificielle, bien sûr, je me suis dit que c'était le but ultime en fait quoi de l'informatique. Donc c'est m'intéressé et j'ai continué comme ça mon parcours universitaire en me spécialisant dans ça, d'abord pour mon DEA et puis ma thèse de doctorat. Donc j'ai fait dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai travaillé dans ce domaine-là en France d'abord, principalement au niveau de l'administration publique avec l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agricole, et dans des startups à Paris, où j'ai continué à travailler en fait sur l'intelligence artificielle. Avant de rentrer au Sénégal, c'était plutôt une carrière universitaire principalement, avec beaucoup d'interactivité aussi avec le secteur privé. Et ensuite, plus tard, avec l'État, où j'ai intégré différentes structures quoi de l'État, surtout dans des comités de direction ou dans des conseils d'administration. Voilà.
D'accord. Bah, je trouve que c'est un excellent parcours en tout cas. Je sais que vous nous en direz un peu plus, même notamment sur votre implication au niveau national, parce qu'en tant que président d'une association sur l'intelligence artificielle au Sénégal, je pense que c'est une première, si je ne me trompe pas.
Oui, il y a plusieurs associations relatives. La plupart du temps, en fait, en Afrique, on parle plutôt des données pour éviter de parler de l'intelligence artificielle.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'on a voulu créer il y a quelques années une association sénégalaise mais pour l'intelligence artificielle, pour regrouper un peu aussi bien les gens au niveau national, les Sénégalais de la diaspora, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans le domaine.
Oui.
Donc, pour voir un peu ce qu'on pouvait faire pour développer un peu ce secteur-là au niveau national. Donc, on a tenu dès le départ à associer également certaines structures privées et également toutes les universités, quoi, mais publiques dans cette association.
Je trouve que c'est très très intéressant d'avoir ce travail qui est vraiment inclusif, qui permet à toutes les parties prenantes, en tout cas, de se sentir intéressées par ce sujet, de travailler énormément sur ces questions-là. Pendant qu'on échange, il y a un très beau logo que je vois derrière vous qui s'appelle Force N. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette organisation-là?
Ouais, Forsen, en fait, c'est une initiative qui a démarré il y a 3 ans, donc de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, accompagnée par la Fondation Mastercard. Donc, on a co-créé ce programme-là d'une durée de 6 ans, donc pour booster un peu l'emploi des jeunes, surtout dans le secteur du numérique. Donc, on accompagne des jeunes hein, qui cherchent de l'emploi, qu'ils soient diplômés ou pas. Et on les aide à avoir toutes les compétences numériques qu'il faut et les compétences en termes de soft skills pour bien s'insérer. Et on les accompagne à s'insérer. Ça peut être un poste d'employé dans une structure ou bien à créer leur propre projet entrepreneurial. Et on a un fonds de financement aussi qui permet d'accompagner des projets entrepreneuriaux. Et on accompagne les plus jeunes aussi, donc collège et lycée, à avoir un peu la culture numérique et la culture scientifique dans sa globalité. Et pour cela, on accompagne, on travaille avec le ministère de l'Éducation pour accompagner les jeunes à mieux connaître, à avoir des formations en codage, en robotique, etc. On équipe même les jeunes en filière S1 et S3, qui sont les deux filières qui sont en train d'être désertés par les jeunes, en fait, des filières scientifiques et d'autres d'ordinateurs portables, donc gratuitement, et des clés de connexion à Internet pour pouvoir travailler sur le numérique.
Bah, je trouve que c'est très très excellent en fait. Ça veut dire qu'au-delà même de votre aspect en tant que professeur ou en tant qu'enseignant, vous avez aussi cette attitude ou du moins ce comportement citoyen. Parce qu'en réalité, ça peut être considéré en tout cas comme une initiative citoyenne, un engagement civique. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de mettre à côté du volet professionnel ce volet d'engagement citoyen pour pouvoir aussi partager certaines valeurs, certains nouveaux créneaux que les jeunes pourraient adopter. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si on va d'un point de vue statistique, plus de la moitié de la population en Afrique, c'est des jeunes de moins de 30 ans à peu près. Donc techniquement, le fait de pouvoir les former, de pouvoir leur permettre d'avoir accès à certains éléments d'information qui vont leur permettre de développer ou de créer une nouvelle carrière, je trouve que c'est très très intéressant et vous avez là un excellent positionnement.
Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les universités publiques au niveau du Sénégal ont, au-delà de la formation et de la recherche, une autre mission qui est le service à la communauté. Et donc, ce programme-là entre dans le cadre du service à la communauté. Il faut savoir qu'il est complètement gratuit pour les jeunes. Tout
D'accord.
ça, financé par la Fondation Mastercard. Donc, c'est gratuit pour tous nos bénéficiaires.
Ah ben, je trouve que c'est très intéressant, surtout l'approche du Sénégal et tout, ça donne envie de pouvoir de s'installer au Sénégal au final, parce que c'est l'un des rares pays, à mon sens en tout cas, à mettre cette initiative-là beaucoup plus en avant, notamment déjà de l'ancrer dans le système universitaire, de sorte que ça puisse vraiment toucher une plus large communauté de personnes. Je trouve que c'est très 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 intéressant de pouvoir mettre ceci en avant. En tout cas, cela fait un petit peu le tour de la présentation, de qui vous êtes, de votre parcours, de votre engagement civique et citoyen, de votre engagement professionnel aussi autour de l'intelligence artificielle. Et ça nous permet de faire la transition directement vers le sujet qui nous amène, qui est de parler de l'intelligence artificielle en Afrique. Concrètement, on va aborder ce sujet-là sur trois volets. Le premier volet, ce sera autour des biais algorithmiques dont on va pouvoir développer un petit peu. Ensuite, on va parler des stéréotypes et des préjugés qui existent au niveau de l'intelligence artificielle. Et on terminera par les perspectives de l'intelligence artificielle en Afrique, notamment dans divers secteurs, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'agriculture, de l'éducation. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de biais algorithmiques qui sont observés dans des systèmes déployés en Afrique? Mais avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez nous donner une définition plus générale, plus simple, plus aisée de l'intelligence artificielle?
Ben, l'intelligence artificielle, on a défini plusieurs fois, hein, si vous allez sur Internet, il y a énormément.
Exact.
Mais bon, pour faire simple, hein, c'est toutes les technologies en fait que nous utilisons pour faire aux ordinateurs ou aux systèmes informatiques des tâches en fait qui sont généralement des tâches que font les humains. Donc tout simplement. Donc on essaie de mettre dans l'ordinateur ces capacités-là de faire des tâches qui normalement sont faites par des êtres humains, donc qui nécessitent une certaine intelligence. Tout simplement.
Excellent. Et ça a le mérite d'être très clair, effectivement, et facile à digérer. Donc on parle de ces nouveaux outils, de ces nouvelles techniques. On se rend compte que, de manière générale, hein, ces outils-là sont développés par des humains. Donc s'ils sont développés par des humains, c'est-à-dire que chaque humain peut avoir sa capacité à intégrer quelque chose qui pourrait être différencié ou pourrait être différenciant dans cet outil-là, ce qui pourrait conduire effectivement à quelques biais algorithmiques, pardon. Est-ce que vous en avez déjà observé dans des systèmes qui sont déployés en Afrique?
Bon, les systèmes, hein, quand on parle de biais algorithmique, l'exemple typique, c'est l'exemple qu'on a eu il y a quelques années par rapport au système, notamment de reconnaissance faciale, où on confondait en fait quoi des Africains ou des personnes d'origine africaine à des singes. Donc ça a été très plus en plus, on a eu des corrections mais par rapport à ces types d'algorithmes. Ça, c'est un exemple typique en fait que l'on voit par rapport au biais. On a aussi un système en fait qui était déployé dans le cadre dans le cadre juridique aux États-Unis et
D'accord.
donc qui avait un biais par exemple qui associait en fait qui avait tendance en fait à mettre dans la catégorie des personnes à risque, des personnes d'origine africaine, donc afro-américaine, parce que les données qui étaient apprises, qui permettaient en fait d'apprendre quoi ces systèmes-là, étaient des données en fait qui venaient d'un contexte bien particulier et qui faisait que la plupart des données qui étaient catégorisées dans cette catégorie-là, ben, venaient d'exemples avec des Afro-Américains. Et donc,
D'accord.
j'ai tendance à juste coller en fait un critère quoi de catégorie sociale avec un critère quoi de délinquance, ce qui était un biais parce que ces données-là, il y avait un autre contexte qui pouvait être beaucoup plus pertinent que la couleur de la peau pour avoir ce type de résultat. Donc ça,
D'accord.
c'est des exemples classiques quoi de algorithmes.
D'accord, donc en fait, ça veut dire que concrètement, avec ces quelques exemples-là, on a des biais algorithmiques qui sont certainement liés à une forme de profilage qui a été réalisé pour une certaine catégorie de personnes et que l'utilisation de ces données-là, en fait, a été, comment dire, a été, ou du moins, on a réutilisé ces mêmes données-là pour faire ou créer des outils d'intelligence artificielle. Et donc, en se basant sur ces données, il y a certains biais qui naissent de manière naturelle.
Je dirais en fait plus précisément que ces biais étaient relatifs à des données qui n'étaient
D'accord.
pas assez complètes. Voilà,
OK.
pour présenter toutes les catégories de façon beaucoup plus claire. Et on n'avait pas fait assez attention en fait à la diversité qu'il devait y avoir sur les données d'apprentissage.
D'accord. Et bien en fait, ce que vous dites là, c'est très intéressant parce que ça veut dire que on peut aussi prendre la question autrement, ou du moins prendre l'analyse autrement en disant que ben en fait ça peut être volontaire par un organisme de dire ben en fait on veut cibler telle catégorie de personnes et développer un algorithme ou développer un outil d'intelligence artificielle là en ayant ciblé ces personnes-là et avoir des résultats particuliers pour finalement exercer un certain pouvoir sur ces différentes personnes-là. Et là c'est enfin je vais pas dans la théorie du complot, mais en réalité c'est des possibilités qui peuvent exister d'un point de vue politique.
Oui, tout à fait. C'est pour cela que de plus en plus on parle d'éthique quand on parle quoi d'intelligence artificielle ou d'IA responsable. Donc, je veux dire, attention, il faut faire gaffe parce que les systèmes d'IA étant des systèmes informatiques, algorithmiques qui sont mises en place par des humains. Il faudrait faire gaffe à ne pas intégrer dans ces systèmes-là des biais naturels que nous avons tous par rapport à notre conception de la vie et par rapport à ce qu'on aimerait faire par ces systèmes. Voilà.
Je trouve que c'est très intéressant, car effectivement, il faut qu'on fasse attention à ce genre de situation-là. Et vous avez, en disant ça, vous évoquez, entre guillemets, à demi-mot, certaines mesures qui peuvent exister. Mais moi, j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu ces questionnements-là et qu'on se demande aujourd'hui, quelles sont les mesures concrètes que les gouvernements ou les entreprises peuvent prendre pour garantir, en fait, une certaine équité ou une non-discrimination dans l'intelligence artificielle?
Oui, mesure, je pense que c'est à deux niveaux. Vous parlez d'État et vous parlez
d'entreprise, exact.
Quand on parle d'entreprise, c'est-à-dire surtout les entreprises qui soit conçoivent quoi, ces algorithmes-là ou bien les utilisent. Donc, il y a un certain nombre de procédures à mettre en place, hein, parce que dans toute la chaîne de valeur quoi, de l'IA, il faudrait maîtriser ces aspects-là et en prendre compte. Donc, que ce soit dans la conception, que ce soit dans le développement, que ce soit dans le déploiement ou que ce soit dans le monitoring quoi, de ces applications-là, il faut faire gaffe à prendre en compte quoi, ces aspects éthiques-là et voir le monitoring qu'il faut pour être sûr que tout ce qu'on est en train de mettre en place dans ces différentes phases-là prenne en compte quoi, cet aspect-là d'abord éthique et aussi de responsabilité par rapport à au système d'intelligence artificielle que nous mettons en œuvre. C'est pareil pour ceux qui l'utilisent aussi. Ils doivent mettre en place tout le monitoring qu'il faut pour être sûr que ce qui était attendu au départ continue à rester vrai tout au long du cycle de vie quoi de ces systèmes-là. Maintenant, quand on parle d'État, c'est tout un cadre qu'il faut mettre en place hein, qui peut être réglementaire ou autre, pour être sûr que c'est bien encadré. Donc, le développement des systèmes est bien encadré, que l'utilisation des données pour la création de ces systèmes-là est bien encadrée, que le déploiement de ces systèmes-là est bien encadré. Donc, c'est deux aspects quoi qui sont différents à prendre en compte.
Je trouve que c'est très intéressant effectivement d'avoir une approche particulière pour les gouvernements ou les organisations publiques qui tendent à établir un cadre assez important pour permettre en tout cas le traitement ou l'utilisation des outils d'intelligence artificielle et d'un point de vue de l'entreprise qui elle a deux postures qui est celle d'avoir qui est la posture de celui qui développe un outil d'intelligence artificielle ou la posture de celui qui utilise un outil d'intelligence artificielle. Moi, je trouve que c'est très intéressant de parler de cela. Et vous avez évoqué un point que je trouve encore plus pertinent, c'est la question de l'éthique. Est-ce que la question de l'éthique n'est pas directement liée, en fait, à est-ce que la question de l'éthique n'est pas influencé par une certaine diversité culturelle, linguistique, un manque de données représentatives ou une sensibilité même du développeur, de celui qui développe l'intelligence artificielle, il peut avoir une sensibilité particulière qui va conduire en fait à un biais algorithmique. Est-ce que c'est quelque chose qui existe de manière générale ou c'est peut-être une vue de l'esprit?
Non, tout à fait, ça existe hein, parce que quand on parle d'éthique. On n'a pas la même définition qu'on soit aux États-Unis, au Sénégal, en Chine, etc. Donc, c'est une question qui peut être assez subjective, en quelque sorte. Mais on a des principes généraux qui sont partagés. Donc, il faudra que ces principes-là, au moins ces principes-là, puissent être bien compris par tout le monde. Okay. Et donc, c'est pour cela que le principe de la contextualisation est très, très, très important et le cadre réglementaire est important dans les différents espaces d'utilisation de l'IA. Quand on est un pays ou un continent, il faudrait voir que représente l'éthique pour nous et bâtir en fait le cadre réglementaire qu'il faut pour que toute la chaîne en fait de production de l'intelligence artificielle et de son utilisation qu'on puisse respecter ces valeurs éthiques-là par rapport à ce contexte-là. Donc ça c'est très 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 important Et on a un cadre global aussi qui existe, hein, sur cela qu'on parle de plus en plus de gouvernance de l'IA de façon ou quoi, mais globale, où on essaie d'amener là-bas des discussions partagées comme par tous pour établir en fait une compréhension commune de ce qu'on considère comme être éthique et responsable. Donc, ce sont des choses très importantes.
Bah, je trouve en tout cas encore par rapport à l'approche que vous présentez, notamment avec le cadre global, ça me permet de faire un lien par rapport à votre activité au sein du secrétariat des Nations Unies, notamment sur le siège sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous sentez que de par votre posture, de par votre positionnement, vous arrivez à mettre en avant les différentes valeurs ou les différents principes qu'on pourrait considérer comme africains, même s'il y a ça peut varier d'un pays à un autre, mais si on a une certaine valeur globale en Afrique, est-ce que vous avez la capacité, vous avez les moyens de pouvoir les mettre en avant, de les faire entendre et pour que ce soit beaucoup plus appliqué, que ce soit dans le contexte africain et aussi globalement dans le contexte européen ou mondial? Parce que pourquoi ce lien-là? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des organisations qui utilisent des outils d'intelligence artificielle ou des outils qui sont très très poussés, on parle des entreprises qui sont dans le GAFA. On parle de Google, on parle de Facebook, enfin, du moins des entreprises qui utilisent le Meta, et avec ces outils d'intelligence artificielle type ChatGPT avec OpenAI et puis Gemini de Google, en fait, c'est des organisations qui ont, on va dire, un pouvoir qui peut être considéré comme supranational, parce qu'ils peuvent avoir même le budget de certains pays. Comment est-ce que vous êtes capable de pouvoir mettre en avant les différentes valeurs ou les différents codes ou principes éthiques qui concernent l'Afrique et qui soient déployés à toutes ces organisations-là?
Bonne question, et ça me donne l'occasion de repréciser en fait tout le travail qui a été fait au sein de cet organe. Donc, c'était un organe qui a existé entre octobre 2023 et octobre 2024. Donc,
tout récemment, c'est terminé, ouais.
Voilà. Okay. Notre travail au sein de cet organe consultatif de niveau sur l'intelligence artificielle qui a été mis en place par le secrétaire général des Nations Unies, avec comme idée de réfléchir en fait sur des recommandations par rapport à la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Ce besoin-là a été souligné parce que effectivement, ce que vous disiez tout de suite, on se rend compte que de plus en plus l'IA est soit détenue par les big tech, soit par des pays qui ont assez de moyens en fait pour développer leur puissance dans ce domaine-là. Donc, pour éviter ce monopole-là de la technologie par les grandes puissances ou par les techs, ben, il était important de réfléchir sur cette gouvernance mondiale. Ce qu'il faut aussi souligner et qu'on a mis en exergue dans notre rapport, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives par rapport à cette gouvernance. On a fait un constat, c'est-à-dire si on prend les 7 initiatives les plus importantes, on se rend compte qu'il y a uniquement 7 pays dans le monde qui font partie de ces 7 initiatives. D'accord. Et dans le monde, il y a 118 pays qui ne font partie d'aucune de ces 7 initiatives-là. Et on voit bien que ces 118 pays-là, la plupart viennent d'Afrique, d'Amérique, d'Amérique latine ou bien d'Asie-Pacifique. Et donc, là, ça soulève bien ce besoin-là d'avoir quelque chose qui englobe tous ces pays-là. Et donc, dans nos recommandations, ce qu'on dit, c'est que pour avoir une bonne gouvernance et pour inclure tout le monde, on a fait 7 recommandations. Je pourrais parler des 3 principales, en fait, qui ont été adoptées globalement par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, quoi, mai dernier. Allez-y. D'abord, il s'agit d'avoir un panel scientifique qui soit multidisciplinaire et international. Donc, ce panel scientifique va réfléchir, en fait, sur toutes les opportunités, quoi, de l'intelligence artificielle et tous les risques présents et futurs. Donc, ça permet au moins d'avoir une réflexion pointue scientifique sur cette technologie-là et de partager en fait les avancées pour que ce soit le plus général et le plus partagé à travers le monde et de voir en fait ses implications dans les SDG, donc dans les objectifs de développement, quoi, mais
durable.
pour que tout le monde puisse se l'approprier et en bénéficier. L'autre élément, c'est le dialogue, en fait. Le dialogue politique, donc c'est un cadre où tous les pays du monde pourront être représentés, qui permet de discuter en fait sur les problématiques. Donc là-bas, on pourra également parler de problématiques éthiques et autres, quoi, sur l'IA responsable. Et ça permettra également de partager toutes les bonnes pratiques en termes de politique et de gouvernance, quoi, de l'IA au niveau national et régional. Et également, ce sera le cadre où on va discuter des résultats du panel scientifique, donc pour voir toutes ces problématiques-là, comment les gérer en termes, quoi, de communauté internationale. Le troisième élément qui a été proposé et qui est en cours de renégociation, c'est d'avoir un fonds mondial de l'IA pour accompagner en fait le développement de l'IA, notamment dans les zones où on a le moins de capacités, notamment les pays africains ou autres, quoi, pour les accompagner à s'approprier, quoi, de la technologie. Donc ça c'est trois recommandations parmi les sept que nous avons faites et qui permettraient un peu de répondre à votre question là, d'avoir un dialogue beaucoup plus international par rapport à l'IA, quoi, des responsables et à l'éthique.
C'est tout à fait clair, hein, ces différents principes que vous avez énoncés, les trois derniers dont on fait mention. Et on remarque que, en fait, partout ailleurs, ou comme dans tous les sujets qui concernent l'Afrique, ou qui touchent les pays qui sont, alors je vais pas dire en voie de développement, je vais plutôt dire les pays qui sont sous-équipés, parce qu'en réalité, c'est une question d'équipement pour mieux se positionner, que ce soit des équipements éducatifs, des équipements politiques et administratifs, mais dans tous les cas, c'est des pays sous-équipés. En fait, la question qui revient fondamentalement, qui met toujours du temps à être décidée ou à être répondue, c'est la question du financement. Parce que là, effectivement, vous proposez quelque chose, vous avez des initiatives qui sont assez poussées, des actions qui sont vraiment pertinentes et qui créent un chemin de discussion pour tous les pays. Mais la problématique derrière, c'est les moyens qu'on peut mettre en avant. Je sais qu'il y a certains pays qui investissent énormément dans l'intelligence artificielle, qui ont un certain budget même qu'ils peuvent allouer à ces différents sujets-là. Est-ce que vous, de par votre expérience, vous avez vu ce genre de vu certains pays, en tout cas d'Afrique, qui ont commencé à mettre la main, entre guillemets, à la poche ou dans leur budget pour dire attention, faut qu'on finance réellement la recherche scientifique sur ces différents sujets-là pour créer en fait des formes de champions nationaux ou de champions locaux de l'intelligence artificielle qui vont pouvoir propulser une dynamique et aussi inciter tout le monde en fait à entrer dans cette ou du moins s'engouffrer dans cette brèche-là.
Oui, d'abord pour parler en fait du financement globalement. Mais le financement, c'est quelque chose d'assez complexe, mais qui pourrait être beaucoup plus simple, quoi. C'est-à-dire si
Simplifiant, simplifiant.
voilà, si les pays avaient accès en fait à leur autonomie monétaire,
Oui.
c'est-à-dire la question du financement, les pays africains sont pas pauvres globalement, quoi. Et
Exact.
sinon, il y a le plus de richesse quand on parle de richesse, quoi, naturelle. Et donc, c'est pas un continent pauvre. Donc c'est juste notre façon peut-être de faire et autres qui fait que on ne met pas les moyens qu'il faut et qu'on aurait pu mettre en fait dans des choses qui seraient structurellement bénéfiques à un développement beaucoup plus accéléré. Je vais le dire comme ça.
D'accord.
Maintenant, il y a de plus en plus de pays africains quand même qui se prennent en main et qui savent que il est important d'avoir cette phase d'investissement-là pour rattraper le gap qu'il y a en termes, quoi, de technologie et à s'approprier de la technologie et avancer très très vite. Je pourrais citer, mais par exemple, le Maroc qui effectue vraiment des investissements très considérables dans ce domaine-là et qui avance très très bien. L'Afrique du Sud également depuis très longtemps qui commence à avoir tout un écosystème qui permet de faire des choses pas mal. Donc, les pays africains peut vraiment avancer en fait dans ce domaine-là. Mais maintenant, l'autre élément, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin dans le long terme, hein, pas dans nos court termes. Je sais que dans nos court termes, on a une avancée technologique qui est assez orientée et qui fait que pour déployer les systèmes qu'il y a actuellement les plus utilisés, il faut beaucoup de puissance de calcul, il faut beaucoup de données, etc., etc. Mais dans le long terme, je pense qu'il est également important d'essayer d'avoir d'autres pistes par rapport au développement futur, quoi, de l'IA qui nécessiterait peut-être moins de puissance de calcul. Okay. Pour pouvoir avoir en fait un développement, quoi, de la technologie qui nécessiterait, voilà, moins de, c'est parce que là on est dans la course du plus, on a de, voilà, on dépense beaucoup beaucoup sans compter les aspects d'impact environnemental qui peut y avoir. Donc, okay. Je pense que c'est peut-être pas la bonne approche à continuer et qu'il faudrait voir, quoi, mais d'autres types d'approches pour développer l'intelligence artificielle.
Bah, je trouve que c'est encore plus intéressant effectivement par rapport aux approches et outils. Ça me permet de poser une dernière question par rapport au biais algorithmique. C'est, est-ce que vous pensez qu'il existe aujourd'hui des outils ou des méthodologies spécifiques pour auditer et corriger les biais algorithmiques qui existeraient?
Oui, il y a beaucoup d'approches scientifiques même, hein, qui permettent de prévenir, quoi, ces biais, qui permettent d'atténuer ces biais.
D'accord.
Avant même, quoi, de travailler, donc sur voir comment avoir une certaine évaluation de la diversité des données d'apprentissage. Il y a pas mal, quoi, mais d'approches qui permettent, quoi, mais de calculer ça. Il y a toute une sensibilisation à faire dans tout le process de mise en place des algorithmes même, parce qu'il faut savoir que les biais peuvent être introduits même par les informaticiens qui travaillent.
Exact.
Donc, bah, c'est important de gérer ces aspects-là, donc de formation et de mise en place de principes et de procédures internes qui permettent, quoi, mais d'atténuer, quoi, ces biais-là. Et surtout, quand on parle, quoi, du contexte africain, c'est important d'avoir tout le cadre réglementaire qu'il faut, parce que ces biais algorithmes-là peuvent être introduits en fait uniquement parce que c'est n'importe quel type d'algorithme, quoi, qui est déployé.
Okay.
Dans un contexte où l'IA n'est pas encore bien maîtrisée, n'est pas encore généralisée, peut-être des structures qui veulent déployer des systèmes IA n'ont pas en interne le dispositif qu'il faut pour valider qu'ils ont bien acheté le bon système, etc. On peut se retrouver en fait avec des biais algorithmes qui sont juste des biais parce que le système qui a été fourni n'était pas le bon système ou n'était pas le système adéquat ou n'est pas passé par toutes les procédures, quoi, mais qu'il faut de validation et autres. Et ça, en Afrique, on peut bien le voir. Et donc, il y a tout un cadre à mettre en place.
D'accord. Je trouve que c'est très intéressant effectivement de pouvoir préciser cet élément-là. Et en même temps, ça, quand on parlait des biais, ça me permet de me poser une question. En fait, un biais peut être créé par n'importe quel informaticien qui aujourd'hui a entre guillemets un bisbille avec son employeur et qui crée quelque chose comme ça et qui disparaît. Est-ce que bon, j'imagine, je dis ça de manière très très triviale pardon et caricaturale, mais c'est peut-être quelque chose qui peut exister parce qu'en réalité, les informaticiens de manière générale, j'utilise abusivement ce terme informaticien là, savent ce qu'ils font quand ils font leur développement, quand ils développent leur base de données ou qu'ils développent leurs algorithmes. Donc ils peuvent intégrer x ou y choses qui ne seront pas vues directement par par l'entreprise, et finalement c'est le public qui le constatera derrière.
Oui, oui, mais bon, souvent il y a l'aspect responsabilité,
oui,
qui est là et qui est faite en fait sur toute la chaîne de valeur.
Okay.
Donc, la chaîne de production de l'IA. Et donc c'est important de savoir que chacun des acteurs va être responsable.
À son échelle.
Il y aura l'informaticien qui sera responsable. Il y aura la structure qui qui conçoit cet outil aussi, qui aura sa propre responsabilité et la responsabilité également de la structure qui va déployer ce système-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que également les structures qui ont ces applications-là ont en interne tout un ensemble de dispositifs de contrôle, de validation, etc., pour que ce type de situation ne puisse pas arriver ou que ce soit vraiment très, 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 très rare. Mais bien sûr, c'est important à prendre en tête.
Je trouve que c'est très très clair en tout cas de pouvoir préciser ces différents éléments là. On évite de se retrouver dans des situations qui pourraient être plus ou moins complexes en termes de traitement des algorithmes, en termes de biais algorithmiques qui puissent exister. Ça permet aussi de faire un lien vers certains préjugés qui peuvent exister aujourd'hui, certains stéréotypes. Est-ce que on peut se poser la question: comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut-elle, malgré elle, en tout cas, renforcer les inégalités sociales et économiques existantes en Afrique?
Peut-être pas en Afrique.
D'accord, de manière générale.
Au monde, hein, je pense que, comme on l'a dit, les systèmes d'intelligence artificielle sont conçus par des hommes.
Exact.
Les personnes qui conçoivent cela viennent avec des préjugés naturels, c'est-à-dire c'est leur façon de concevoir le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux aspects qui peuvent être très importants. La façon dont ils conçoivent la diversité de leur jeu de données qui permettent quoi, mais d'apprendre. On peut intégrer dedans quelque chose qui peut amener ces préjugés-là. Et donc la façon de dire que on a un jeu de données assez diversifié en prenant en compte notre vision du monde.
D'accord.
Il y a l'autre façon, c'est de dire la manière dont on conçoit les systèmes. Parce que quand on conçoit un système IA, on le conçoit en prenant en compte notre compréhension de comment les choses marchent.
OK.
Ok, et qu'on essaie d'implémenter en fait dans le système. Et donc là aussi, fait intervenir un préjugé parce que c'est notre fonction, c'est notre façon de voir le monde dans les systèmes. Donc c'est pour ça qu'on dit de plus en plus que l'Afrique devrait se positionner également dans la conception des systèmes IA, parce qu'on a également notre propre façon de voir le monde. Qui serait important en fait de prendre en compte. Je donne un exemple simple. Hein. Quand on voit les systèmes d'IA actuels avec une surutilisation de tout, okay, il nous faut des données en masse, il nous faut des capacités de calcul en masse. Nos valeurs africaines nous apprennent à utiliser la nature de façon bienveillante et à n'utiliser que ce dont on a besoin pour faire des choses. Et ça va un peu en contradiction avec le développement actuel, quoi, de l'intelligence artificielle où il faut produire en masse.
Exact, exact.
Donc, on produit même ce dont on n'a pas besoin. Et on se rend compte de plus en plus, on va utiliser des systèmes d'IA générative pour faire des choses hyper simples qui normalement n'a pas besoin de ce genre, quoi, de système qui utilise beaucoup, 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 quoi, mais d'énergie. Et donc, il faudrait peut-être, quoi, mais revoir, quoi, mais tout ça avec notre prisme, notre façon de voir le monde. Et peut-être qu'on aura d'autres approches, en fait, quoi, de l'IA qui pourraient être assez intéressantes.
C'est très pertinent en tout cas de se positionner comme ça, et ça permet de faire le lien directement avec ce que moi j'appelle, peut-être que je me trompe dans mon approche, mais ça peut être considéré comme en fait une forme de paresse intellectuelle. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec tous les outils d'intelligence artificielle qui existent, il suffit juste de partir sur Google, Gemini, ou ChatGPT, ou Perplexity et autres, et vous posez une question. Vous avez déjà la réponse, hein. Vous posez une question, Et en fait, ça vous déroule un développement particulier et vous n'allez pas forcément aller chercher derrière pour voir si la source est vraie, si la source est pertinente et tout. Et quand on parle de source, déjà, ça permet de... Il faut se poser la question. Par exemple, les outils comme les outils d'OpenAI ou Gemini, je crois, quand vous posez une question au script ou à l'intelligence artificielle ou à leur outil, vous n'avez pas la source derrière. Par contre, il y a certains outils d'intelligence artificielle qui précisent les sources où est-ce qu'elle allait chercher l'information. Et donc, ce qui fait que on peut se retrouver à peut-être poser des questions qui sont, en fait, qui nécessitent même pas de réflexion extrêmement poussée. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux poser la question à un outil d'intelligence artificielle, comment est-ce que je fais cuire des œufs, alors que je peux le faire moi-même. Enfin, c'est une manière de dire que ça conduit en fait vers un effort de recherche qui est beaucoup moins poussé, et ça permet en fait de s'interroger par rapport à cela. C'est, moi je pense, il y a un préjugé qui va naître, qui est que les juristes entre guillemets qui font de la recherche ou de la veille juridique, cette activité de juriste là ne sera plus pertinente plus tard. Est-ce que c'est le genre de choses qui peuvent arriver?
Non, moi personnellement en fait je pense que c'est plutôt une question d'adaptation, c'est-à-dire qu'on va s'adapter. Et on va changer notre façon de travailler. Plutôt qu'on va remplacer certains métiers. C'est vrai qu'il y aura certains métiers qui vont disparaître, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et la plupart du temps, on aura des métiers qui vont évoluer. Quand vous parlez, mais par exemple, du métier de documentaliste.
Ouais.
Ah. Si vous revenez avant l'internet.
D'accord. Ouais.
Ce métier-là existait. Il fallait aller dans des bibliothèques, prendre des livres.
Exact.
Voilà, pendant des jours et des jours, pour essayer de prendre des notes, etc. Avec Internet, on peut accéder à des bibliothèques, quoi, mais numériques. Et le temps pour faire ça a été accéléré, mais on n'a pas remplacé. En fait. Et donc, on a eu plus de facilité à le faire. Mais ça ne veut pas dire que le travail en devenait paresseux. Parce qu'en fait, il fallait maintenant avoir d'autres types de compétences nouvelles, notre capacité à poser les bonnes questions pour rechercher assez rapidement. Et on aura le même principe, à mon avis, mais pour l'IA. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces technologies, quoi, qui existent, mais on va développer d'autres types de compétences, notre capacité à bien interagir avec ces systèmes quoi, médias, pour avoir un peu plus de plus-value que la moyenne. Parce qu'en fait, c'est toujours une question, si on a un certain métier, ça veut dire qu'on est payé pour faire quelque chose,
exact.
Ça veut dire qu'on est payé pour faire quelque chose de spécifique que la moyenne des gens ne pourrait pas faire. En fait, si on se limite à utiliser ces systèmes-là, comme tout le monde, on aura des résultats basiques, quoi, mais comme tout le monde. Et donc, on n'aura pas un métier spécifique. Donc, si on a un métier spécifique par rapport à quelque chose et qu'on utilise ces systèmes-là pour nous aider, ça veut dire qu'on aura une compétence supérieure à la moyenne pour interagir avec ces systèmes-là, pour avoir une information pertinente qui a beaucoup de valeur par rapport à d'accord. La...
Voilà. Je trouve que c'est très bien comme approche parce qu'en fait, ça veut dire tout simplement ou trivialement que l'heure est à l'adaptation plutôt qu'à la crainte de la perte d'un emploi de manière générale. Et effectivement, c'est bien que vous ayez mis l'exemple sur l'avant Internet parce que on peut aller même plus loin, l'avant calculatrice entre guillemets. Oui. Ou l'avant ordinateur, c'est qu'on avait par exemple des comptables qui étaient inquiets par rapport à leur activité parce qu'en fait leur activité tournait principalement autour d'avoir une calculatrice et ouais. D'identifier certaines lignes et de faire des calculs pour être comptable ou du moins pour être efficace dans les résultats. Aujourd'hui, avec les différents outils qu'il y a, en fait, ça se fait automatiquement, ça se fait très rapidement avec les outils d'Excel et autres. Mais en fait, finalement, ce sont ces gens-là. Aujourd'hui, le métier de comptable existe toujours.
Ouais.
Les gens se sont adaptés.
Ouais, mais par contre, la différence, par contre, qu'il existe avec l'IA, c'est que par définition, l'IA essaie de remplacer l'homme.
D'accord, ok.
Que Internet ne voulait pas remplacer l'homme.
Oui.
L'informatique ne voulait pas remplacer l'homme. Ça permettait de faciliter.
Ok.
Que l'IA, on essaie de faire faire à la machine, comme je le disais, des tâches que font l'humain.
D'accord.
Et donc, par définition, on essaie de remplacer toutes les tâches possibles.
Ok.
Voilà.
Et donc, pas uniquement que les tâches les plus répétitives, vraiment toutes les tâches possibles. Toutes
les tâches. Et donc, plus l'IA va avancer, plus on aura quand même des métiers qui vont tendre à disparaître.
Okay.
Et peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont être créés.
D'accord. Okay.
Mais le plus important, hein, et là je parle philosophique,
d'accord,
c'est est-ce que l'humain est sur Terre, en fait, pour travailler tout le temps?
C'est une bonne question.
Donc, plus l'IA va se développer, plus on aura peut-être moins de temps à travailler et plus de temps à faire autre chose. Voilà.
Je trouve que c'est une très très bonne réflexion philosophique effectivement qui nécessite d'être poussée. Certains diraient que entre guillemets on est arrivé sur la Terre et tout pas pour souffrir, tout simplement. Travailler c'est souffrir. Peu importe ce que vous faites, même si vous aimez le travail que vous faites et tout, il y a une certaine entre guillemets souffrance qu'on peut y avoir en travaillant et tout. Peut-être que le terme n'est pas bon, mais dans tous les cas, c'est de dire que on fait quelque chose au détriment d'une autre chose qu'on aurait voulu faire à un moment X, et c'est un peu ça qui crée quelque chose. Et donc c'est vrai, il faut se poser la question, est-ce qu'on a vocation à vouloir travailler tout le temps ou à être capable de pouvoir déléguer certaines tâches, voire la totalité de nos tâches à des outils. Mais la problématique derrière, en fait, ça va créer aussi une réflexion philosophique qui est du fait de se dire, est-ce que l'avenir de demain n'est pas un avenir au conseil plutôt que à l'exécution de tâches? Parce qu'en réalité, l'exécution de tâches pourrait être déléguée à des outils d'intelligence artificielle, mais le conseil en lui-même, c'est-à-dire l'approche matérielle, l'approche de contexte, ça c'est quelque chose qu'un outil d'intelligence artificielle n'a pas. Il ne peut pas être capable de déterminer qu'est-ce qui entoure la réflexion d'une personne, le non-dit dans ce que cette personne dit aujourd'hui, parce que moi je peux avoir par exemple un besoin particulier, demander à un outil d'intelligence artificielle de me répondre à ce besoin-là, il va me répondre avec tous les éléments factuels disponibles et tout sur toute la base de données qu'il a à disposition. Mais par contre, il pourra pas connaître ou anticiper le non-dit de ce que je dis. Par exemple, quand je discute avec quelqu'un, si la personne a une réaction particulière à un mot en particulier, ça me permet moi d'adapter ma manière de discuter. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui ne fait pas ça.
Ça dépend, mais
ce
qui est vrai en fait, c'est que moi, en tout cas, je fais partie des personnes qui pensent que l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que ça reste quand même un outil qui permet de faciliter en fait les tâches de l'humain. Donc, ça permet de remplacer tout ce qui peut être remplacé. Mais toujours encadré par l'humain, c'est-à-dire que il y a toujours l'humain quoi qui est là. Penser que on pourrait arriver à une intelligence artificielle qui ferait tout comme l'humain ou mieux que l'humain, je pense pas. Je pense que l'IA n'a pas de conscience et l'IA n'aura jamais de conscience. C'est juste en fait un outil qui utilise beaucoup de calculs. Peut-être même que le cerveau humain est également un outil qui utilise beaucoup de calculs, hein. Mais je pense qu'il y a quand même autre chose qui permet à l'humain d'être l'humain qu'il est actuellement dans ce monde-là, que l'homme ne parviendra pas à créer quelque chose qui ressemble à l'humain. Et donc, l'IA restera cet outil-là. On aura de plus en plus performant pour faire pas mal de choses, pour imiter le comportement humain le plus possible. Mais ce sera juste une imitation, hein. Et l'essence même de notre humanité ne pourra pas être redupliquée dans des ordinateurs.
Je trouve que c'est très pertinent de dire ça. Et ça veut dire en fait que aujourd'hui, techniquement, Minority, les sujets qu'on voit sur les sur les films qui ont existé il y a quelques années, notamment Minority Report ou iRobot, c'est vraiment de la vue de l'esprit au final.
Oui, tout à fait. Je pense que y a la science-fiction.
Oui.
Et l'humain essaie toujours de rattraper la science.
Exact.
Voilà. On essaiera tout le temps Et je pense que l'IA va encore s'améliorer. Hein. On a des choses qui sont extraordinaires maintenant qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir faire quoi, il y a quelques années. Et je pense qu'on va encore améliorer. Mais on est encore très, très loin de l'intelligence humaine.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et ça me permet en fait de me rappeler en fait d'une session de formation que j'avais eue au niveau de Harvard avec plusieurs catégorisations d'intelligence artificielle, dont l'une sur l'intelligence artificielle générative dont on parle actuellement de manière générale, jusqu'à un dernier élément d'intelligence artificielle qui ferait que on aurait entre guillemets rien à faire, que l'outil apprendrait de lui-même et réalisera des tâches de lui-même de sorte qu'il puisse se réparer lui-même derrière. Donc techniquement c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais c'est dans un futur qui sera extrêmement loin par rapport à la manière dont on voit les choses. En tout cas, c'était l'approche qui avait été proposée. Après, bien entendu, les outils, on sait tous que les outils d'intelligence artificielle se développent avec une masse de données, une masse fulgurante de données, et tant qu'il y aura des données, cet outil-là sera capable de se développer, ou du moins d'avoir une meilleure approche, ou si ce n'est une approche plus personnalisée. Parce qu'au final, aujourd'hui, utiliser des outils d'IA, c'est surtout être capable de proposer des résultats personnalisés à des personnes ou à des besoins spécifiques pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et donc, plus on a de cas de figure qui ressemblent à ce besoin, plus on aura des approches qui seront encore plus personnalisées pour ces outils-là.
Oui, je pense que il y a deux aspects dans ce que vous venez de dire. Le fait d'avoir des systèmes que l'on crée qui ont la capacité de créer des systèmes ou de changer, de modifier son comportement, ça peut ne pas être de la science-fiction pure. C'est-à-dire qu'on peut évoluer jusqu'à créer des systèmes capables de créer d'autres systèmes. Mais la problématique n'est pas là. La problématique, c'est est-ce que on est capable de créer des systèmes robustes, c'est-à-dire être sûr que ce qu'on est en train de créer ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc c'est plutôt ça la problématique.
Permettez-moi effectivement de rebondir par rapport à cela parce que c'est un point très intéressant. Il y avait eu un outil d'intelligence artificielle qui avait été mis sur Twitter ou sur Google, je sais plus. C'était une forme de chat conversationnel pour lequel en fait chacun pouvait poser des questions à ce chat informationnel là. Et en fait l'idée c'est que quand ils ont créé cet outil là, ils voulaient que ce soit un outil qui soit assez robuste, ou du moins l'outil se voulait robuste. Et juste une heure après, l'outil est devenu raciste. Toutes les questions qu'il y a eu sur les réseaux. Donc effectivement, je comprends votre point avec la robustesse de l'outil. Et je vous laisse continuer effectivement.
Ouais, cet exemple-là dont vous parlez en fait, ça peut être issu d'un biais en fait. C'est-à-dire que c'est par rapport aux différentes interactions. Le système en tant que tel est un système qui est complet, c'est-à-dire que ses capacités sont limitées. Maintenant, ce qui va changer, ce sont les données qui sont intégrées en fait pour que le modèle soit stable. Ok. Moi, je parlais plutôt des systèmes d'IA capables de créer d'autres systèmes, c'est-à-dire capables d'appliquer la structure même leur algorithme. Et ça, en fait, il y a des travaux qui se font, etc. Mais maintenant, toute la problématique serait de savoir est-ce qu'on est capable de créer des systèmes capable d'évaluer même la pertinence de ce qu'ils sont en train de créer. Toute la difficulté resterait là-bas, et là ça pourrait ça implique en fait l'idée d'avoir une certaine conscience, et donc et c'est cette conscience là que les ordinateurs n'ont pas.
Et c'est excellent, en tout cas c'est très pertinent, et ça nous permet en fait de développer sur la troisième partie de notre échange aujourd'hui, qui est de parler des perspectives de l'intelligence artificielle en Afrique. Et en termes de perspectives, il y en a énormément. Je pense que vous allez pouvoir nous en dire énormément dessus. Selon vous, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle les plus prometteurs pour le développement de l'Afrique aujourd'hui? Et on parle de plusieurs secteurs, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, de l'éducation.
Cette question, hein, c'est une question classique qui est posée.
Okay.
Ma réponse tout le temps, c'est de dire que l'IA pour l'Afrique, c'est la même chose que l'IA pour le reste du monde. Elle est une technologie et il faut l'utiliser pour régler tous les problèmes possibles. Voilà. Okay. Donc, il n'y a pas une IA spécifique africaine et une IA pour le reste du monde. Il s'agit maintenant de savoir qu'est-ce que l'Afrique en fait. C'est-à-dire, est-ce que les pays africains ont pris conscience de la technologie et de sa maturité et de l'importance en fait que nous devons avoir à la maîtriser et à l'utiliser pour régler nos propres problèmes. Donc c'est plutôt ça la problématique. Et donc c'est une problématique de politique publique. C'est-à-dire est-ce que nos pays africains mettent en place tout ce qu'il faut pour ne pas rater en fait cette révolution technologique là comme on a raté les précédentes. Et ça devient une vraie problématique de plus en plus pressante parce que dans les faits sur le terrain, on se rend compte que tel n'est pas le cas. C'est-à-dire que les pays africains, dans la globalité, hein, on a des rythmes différents. Les pays africains on peut pas les catégoriser tous de la même manière, mais on a des rythmes différents. Mais pour parler de l'Afrique dans sa globalité, globalement, on n'a pas encore cette prise de conscience comme il faut. Et cette prise en charge effectivement de cette technologie-là. On a au niveau africain depuis récemment une stratégie panafricaine qui a été mise en place de façon assez chaotique, mais qui est là.
D'accord.
On a une stratégie. Et maintenant, il faut nécessairement passer à sa mise en œuvre, donc à l'implémentation de cette stratégie-là. Donc, quand on parle de stratégie panafricaine, ça veut dire qu'on parle d'un cadre global, c'est-à-dire on parle au niveau africain.
Okay.
Et on a ça plutôt au niveau de l'Union africaine.
Okay.
Mais comment marche l'Union africaine avec ces problématiques?
Exact. Et donc,
très, très, très compliqué de mettre en œuvre de façon efficace une telle stratégie à ce niveau-là. On a, au niveau régional, donc les différentes régions qui constituent quoi, mais l'Afrique, des réflexions qui se font également et qui sont pas très avancées. On a au niveau pays, dans différents pays, une réflexion également qui peut se faire. On a de plus en plus de stratégies nationales, donc au niveau du continent africain, mais très peu de pays vont au-delà d'avoir un document de stratégie.
Okay.
Et donc la plupart du temps, les politiques, les pouvoirs se débrouillent pour avoir un document stratégique.
Okay.
Et la plupart du temps, ils ont eu ce document stratégique là parce que c'est venu de l'extérieur. C'est-à-dire c'est les pays en tant que tels qui se sont dit je veux avoir ça et je mets en place les moyens qu'il faut pour avoir ce document-là.
Exact.
C'est souvent un bailleur qui vient qui dit j'aimerais vous financer ce document-là et les États se mettent à faire ce document parce que il y a ce financement extérieur qui la plupart du temps n'aurait même pas nécessité en fait d'avoir un financement extérieur parce que ce sont des moyens financiers qui sont à la portée de ces pays-là.
Okay.
Voilà. On se retrouve avec des pays qui ont des documents et qui souvent se limitent à ce document-là et à rien qui est mis en place pour une implémentation efficace en fait de cette stratégie.
Je trouve que c'est très intéressant effectivement de parler de cela parce qu'en réalité c'est un peu aussi ce que beaucoup de pays africains vivent depuis ces 10-15 dernières années. C'est qu'en fait quand on parle par exemple du domaine de la protection des données personnelles, on a plusieurs pays qui ont décidé depuis quelques années de créer une loi spécifique à la protection des données personnelles. Parce que pour plusieurs raisons, hein. L'une des premières raisons, par exemple, c'est qu'en Union européenne, ils ont décidé en 2012 de sortir un projet de loi, un projet de règlement qui était adopté en 2016 et qui est devenu effectif en 2018. C'est ce qu'on appelle généralement le RGPD. règlement général sur la protection des données, et ça a un impact que ce soit au niveau européen, mais au niveau extraterritorial. Ce qui a permis, en fait, de mettre la pression à certains pays qui sont en Union européenne et qui ont des activités à l'extérieur, ou dans le continent africain, avec les différents transferts de données qui puissent exister. Ayant vu cela, certains pays africains ont décidé, finalement, on va réaliser, en fait, une réglementation qui va nous permettre de pouvoir gérer aussi la protection de nos données. Mais malheureusement, 80-90% du temps, les lois qui sont proposées sont, entre guillemets, du copier-coller de certaines réglementations européennes, pour ne pas citer que la réglementation française.
Oui, tout à fait, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, en fait, ça vient du fait qu'on est plutôt suiviste. C'est-à-dire que les pays africains, en termes de réglementation, en termes de trucs, ont une approche de suiviste et essaient de faire écho à des choses qui se passent par ailleurs sans se concentrer en fait sur eux-mêmes et de voir quel est le dispositif à mettre en place en local par rapport à nos propres problématiques, tout en ayant une vue sur le monde, bien sûr. Mais en étant ancré sur nos propres valeurs et nos propres problèmes. Et ça fait que beaucoup de choses n'avancent pas, parce qu'en fait, on est tout le temps dans cette approche quoi de suiviste, où on essaie de répliquer ce qui se fait ailleurs, sans contextualiser et sans avoir une approche endogène, en fait, qui permet de partir d'abord de nos problèmes et d'aller en fait vers un cadre en fait qui permettrait de résoudre quoi nos problèmes avec notre vision des choses et notre trajectoire par rapport à notre propre développement. C'est parce qu'en fait il faut pas laisser de côté qu'il faut d'abord avoir une propre trajectoire. Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à l'IA? Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à nos données, etc. Avant d'avoir cette approche quoi de réglementation et autres, il faut savoir d'abord ce qu'on veut et quel est le dispositif qu'on met en place pour atteindre ce qu'on veut. Et là, on pourra bâtir en fait le bon cadre qu'il faut pour y arriver. Mais maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est ce gap-là qui existe entre les communautés qui sont sur le terrain, qui travaillent quoi sur l'IA et qui font des choses extraordinaires, et les États qui sont là en fait pour avoir ce cadre-là et l'impulsion et l'accompagnement qu'il faut, qui ne le font pas parce que ils n'ont pas encore une compréhension claire de ce qu'ils peuvent faire et autres. Et donc il faudrait travailler à réduire ce gap-là pour faire confiance à ces communautés-là et les accompagner pour pouvoir développer quoi l'IA au niveau continental.
Je trouve que c'est très intéressant de préciser les choses comme ça, mais ça me permet moi de me poser une question aussi, et c'est une question qui va à l'endroit entre guillemets des nouvelles générations que nous avons aujourd'hui. Est-ce que en fait la volonté d'investir dans l'intelligence artificielle ne rencontre pas en fait une forme de barrière avec la classe dirigeante actuelle qui entre guillemets pourrait être sceptique par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Parce que je prends un exemple particulier. Moi, imaginons que j'ai 75 ans. Que j'ai 78 ans et que je suis président de la République de X pays. L'intelligence artificielle, c'est pas mon problème. Peu importe les conseils qu'ils vont me dire à gauche et à droite et tout, il y a de fortes chances que ce ne soit pas mon problème. Et s'il y a de fortes chances que ce ne soit pas mon problème, je vais m'entourer de personnes qui pensent comme moi. Et les personnes qui pensent comme moi ne vont pas forcément mettre en avant les sujets relatifs à l'intelligence artificielle pour qu'on encadre les choses et que finalement on propose quelque chose pour les générations pour ceux qui ont 12, 13, 14 ans cette année, qui dans quelques années vont avoir 20 ans, 25 ans et qui seront ceux-mêmes qui vont utiliser de manière encore plus poussée les outils d'intelligence artificielle. Donc mon interrogation, c'est de dire, est-ce que l'utilisation ou l'investissement dans l'intelligence artificielle en Afrique n'est pas directement bloqué vis-à-vis d'un choc générationnel de certaines classes dirigeantes?
Je suis pas sûr.
D'accord.
Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que la question de la technologie, la question de l'IA et autres n'est pas nécessairement une histoire de différence générationnelle. Quand on parle de politique publique et quand on parle d'État. Quand on parle du public en général, On peut penser cela parce que voilà, il y a des gens, il y a des personnes lambda.
Des éternels réfractaires, en fait.
Voilà, quand on prend des personnes lambda, on peut penser qu'une personne lambda plus âgée n'a pas la bonne compréhension autant qu'une personne lambda jeune. Et donc, on peut parler quoi de choc quand on parle du grand public. Quand on parle de dirigeants de pays, je ne veux pas accepter qu'on puisse parler de choc générationnel. D'accord. C'est plutôt une question de culture générale. Et donc, de savoir est-ce que les personnes qui dirigent ces pays-là sont à la place qu'il faut. Parce que on peut avoir 70 ans ou autre, mais si on se trouve là-bas et qu'on a la bonne culture générale qu'il faut, et cette responsabilité, en fait, qui fait que on est dans un pays, on occupe des postes qui sont des postes où il faut faire de la veille permanente. Et on ne peut pas accepter, en fait, qu'on parle de choc générationnel. C'est-à-dire que si on est dans cette posture-là, il faut être dans une posture où on est au fait de la marche du monde et on sait ce qui se passe à travers le monde. Et donc, il est difficilement envisageable de parler de choc générationnel quand on parle de politique publique. Il est très important que les gens qui gèrent ces pays-là puissent être au fait de ce qui se passe à travers le monde et mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter ce gap technologique-là. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses.
Mais c'est effectivement une façon de voir qui est tout à fait respectable parce que il peut y avoir des situations dans lesquelles en fait certaines personnes qui aient un certain âge et une certaine culture pour faciliter le développement de l'intelligence artificielle.
Moi, je connais des gens qui ont plus de 60 ans, qui ont autour de 70 ans, qui sont beaucoup plus technologiques que n'importe quel jeune parce qu'ils sont dans cette culture-là de toujours être au fait de ce qui se passe à travers le monde et qui s'intéresse aux choses. Donc, c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est nécessairement hors du système et qu'on est has-been par rapport à la technologie.
J'aime bien ce terme has-been parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui va sortir tout le temps. C'est que un jeune qui ne connaît pas forcément l'intelligence artificielle et qui regarde un peu l'environnement dans lequel il se trouve. Par rapport à sa sensibilité, il a de fortes chances de trouver qu'une personne qui a 75, 80 ans est forcément has-been dans un domaine particulier, parce qu'il va estimer, malheureusement, à tort ou à raison d'ailleurs, que cette personne-là ne va pas aller faire les efforts de recherche, les efforts de développement culturel, le développement de sa culture générale même, et donc il va trouver que cette personne-là est forcément en déphasage avec l'approche que lui, il a, de manière générale.
Ouais.
Mais, ouais.
Allez. Un exemple simple. Mm-hmm. Prenez les plus grands chercheurs, les plus connus dans le domaine de l'IA.
D'accord.
C'est vieux.
C'est vrai.
Donc,
après, on pourrait dire effectivement que eux, ils ont l'avantage d'avoir connu l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, le premier mot intelligence artificielle est intervenu en 1956 avec Alan Turing. Et en fait, il a continué à évoluer, notamment par rapport à une conférence qu'il y a eu à Boston où ils ont essayé de créer une définition collective de l'intelligence artificielle. Et puis, quelques années plus tard, ça a continué. Donc, en fait, ça veut dire, depuis les années 50, on a ces personnes-là qui maîtrisaient un peu plus ce sujet. Aujourd'hui, enfin, la donne n'est pas, je dis pas qu'elle est différente, mais elle a évolué d'une certaine manière que certains jeunes pourraient considérer que eux sont au summum de la compréhension de l'outil d'intelligence artificielle parce qu'ils ont beaucoup plus d'outils à leur disposition pour mieux définir en fait leur approche sur les 10, 15, 20 prochaines années.
Mais bon, rapidement en parenthèse, c'est pas Alan Turing qui a sorti ce mot intelligence artificielle. Donc c'est la conférence de Davos. Beaucoup de scientifiques ont travaillé. C'était une conférence de travail qui a permis de se mettre d'accord sur le terme intelligence artificielle. Le test d'Alan Turing venait avant et c'était surtout sur des notions de système intelligent. Est-ce que l'ordinateur était capable de réagir comme un être humain? Et Alan Turing a proposé un test pour permettre de savoir si un ordinateur avait un comportement intelligent. Voilà.
Donc, c'est les prémices, effectivement, de ces discussions. Okay.
Et ça, c'est avant même, hein, dans les années 40, que tous ces travaux-là sur les systèmes intelligents ont démarré. Maintenant, par rapport au fait d'être vieux ou pas, pour finir sur ce point-là, je pense en fait que c'est plus une notion de culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on d'intérêt, de curiosité intellectuelle, tout simplement. Et ça, c'est n'importe quel âge. On peut être jeune et Asmin, et vieux et Asmin, comme on peut être jeune complètement dedans, et vieux également complètement.
Bah c'est parfait en fait, en tout cas en termes de conclusion sur ce point-là. Ça me permet de parler de défis. Selon vous, quels seraient les défis à relever pour que l'Afrique en général soit le hub d'une IA responsable?
Le principal défi, hein, je reviens dessus parce que c'est très 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 important, c'est une bonne compréhension des enjeux par les politiques et la mise en place de cadres d'investissement gouvernance qui soient alignés à cette bonne compréhension des enjeux. Sans cela, ça va être très, très, très difficile. Et sans cela, on aura ce gap-là qui va exister entre des communautés qui vont se lancer complètement dedans, parce que la technologie est maintenant, en termes de compréhension, des approches et autres accessibles au grand public de plus en plus. Et donc, on aura des jeunes qui vont se mettre dedans pour maîtriser la technologie, et des moins jeunes aussi, et qui vont être utilisés par d'autres pays qui ont la bonne compréhension des enjeux. Et donc, ce sera une grosse perte pour l'Afrique, parce que on ne peut rien faire, en fait, si ceux qui gèrent ces pays-là, les gouvernants, n'ont pas une bonne compréhension et ne facilite pas, en fait, le développement de cette technologie.
Je trouve que c'est très intéressant, effectivement, parce que si on ne comprend pas quelque chose, on va se méfier de cette chose-là. Et si on se méfie de quelque chose, il y a 80 ou 90% de chances qu'on ne le fasse pas. Tout simplement. Ouais. Donc, cette compréhension-là, je l'entends parfaitement, que ce soit vraiment un enjeu qui soit assez, assez important. Et si la compréhension existe, aujourd'hui, c'est peut-être d'autres défis, par exemple, qu'on pourrait identifier, ce serait potentiellement les infrastructures, le développement des infrastructures qui vont permettre de pouvoir se positionner dessus, le financement de la recherche scientifique vers ces différents points-là. Quand on regarde, par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest de manière générale, et je peux prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a certaines réductions de budget qui existent au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Ça ne favorise pas, ou du moins, ce n'est pas un message clair, positif, qui est envoyé dans le cadre de la recherche, alors que aujourd'hui on est vraiment à l'ère de la recherche. Si on ne veut pas manquer ce petit tournant de révolution qu'on a, qui est la révolution de l'intelligence artificielle, en tout cas que je préfère appeler comme ça.
Tout à fait, c'est-à-dire que on a ce gap-là par rapport à la culture scientifique, c'est-à-dire que si nos pays africains ne se rendent pas compte que la seule façon de régler nos problèmes, c'est d'investir massivement sur la science et l'innovation. Je ne parlerai pas de recherche, parce que si on parle de recherche, on a tendance à le limiter aux chercheurs qui sont dans les universités et à faire cette différenciation-là entre la vraie vie et les laboratoires, voilà. Alors que c'est imbriqué à 100%. Et donc, si on n'a pas cette bonne culture de la science et de l'innovation pour dire que c'est comme cela qu'on va avoir les moyens de régler nos problèmes et pas autrement, c'est pas en achetant massivement des choses qu'on va y arriver. C'est en investissant dans la science et l'innovation, on va avoir les capacités de régler tous nos problèmes. Et si on n'a pas cette bonne compréhension-là par les politiques, ben, on n'aura pas les investissements qu'il faut. Et l'organisation même, c'est pas juste une question, quoi, de fond. C'est également comment c'est organisé. Comment on a organisé notre pays pour que la science et l'innovation puissent être faites et appliquées pour résoudre, quoi, nos propres pas mes problèmes.
Parfait. Bah, je trouve que c'est très clair, en tout cas, de mettre en avant cet élément-là. Et ça me permet d'aborder, comment dire, un dernier point en termes de, comment dire, en termes de collaboration qui peut y arriver, notamment dans le cadre des transferts de technologie. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts dans le cadre de l'initiative avec les Nations Unies ou le secrétariat des Nations Unies. Selon vous, quel rôle peuvent jouer en fait les collaborations internationales et le transfert des technologies?
Non, tout à fait. C'est central. C'est-à-dire que l'histoire du monde a été jalonnée en fait par des collaborations technologiques et des transferts technologiques. Et donc, c'est ça qui a amené les différentes évolutions technologiques que nous avons eues à travers le monde. Et je pense que il est important, notamment pour l'Afrique, d'avoir une bonne politique de collaboration internationale pour pouvoir rendre ce transfert technologique-là, comment dire, réel. Parce que pour pouvoir faire un transfert technologique, il faut que les deux parties soient préparées pour. Exactement. Et donc, il nous faut avoir également des politiques internes qui nous permettent d'être un bon réceptacle pour ce transfert, quoi, mais technologique-là, avec une bonne vision, voilà, qui nous permette de matérialiser et de rendre pertinent et efficace ce transfert, quoi, mais technologique-là. C'est pas uniquement de le mettre dans des contrats, et ça va pas venir, quoi, de l'extérieur. Donc, il nous faut avoir ces collaborations-là et se préparer, en fait, pour que ces collaborations-là puissent être gagnant-gagnant et efficaces.
Parfait. Je trouve que c'est très intéressant. Ça va me permettre de, malheureusement, conclure avec notre échange qui a été passionnant au bout d'une heure, 1h20. J'ai juste deux dernières questions qui me semblent très pertinentes. C'est, selon vous, quelle est l'approche qu'il faut privilégier pour valoriser l'intelligence artificielle dans notre contexte ou dans le contexte international, de sorte que tout le monde puisse se dire « c'est un outil dont j'ai besoin, c'est un outil qui peut m'aider à créer ou à générer beaucoup plus de choses, je devrais pouvoir l'utiliser ». Quelle est l'approche la plus pertinente pour mettre en avant l'intelligence artificielle?
Je pense que, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est comme un rouleau compresseur actuellement.
D'accord.
C'est-à-dire que, de toute façon, on est obligé de l'utiliser. La question serait comment faire pour accompagner, pour que tout le monde puisse avoir les bonnes compétences pour l'utiliser. Mais le fait de dire il faut accompagner pour que les gens puissent l'utiliser, les gens, petit à petit, se rendent compte de plus en plus qu'ils sont un peu forcés à utiliser ça. C'est comme, il y a de moins en moins de réticences. Et de plus en plus d'appropriation. Maintenant, il faut accompagner, quoi, cette appropriation-là, en ayant notamment un focus sur l'éthique, sur l'usage éthique de l'IA. Parce qu'en fait, quand on va utiliser, on aura petit à petit tendance à l'utiliser de la mauvaise manière, c'est-à-dire en faisant des choses qui ne seraient pas autorisées, ou faire des choses qui vont faire que on fait semblant de faire son travail. Donc, il faut de l'éthique. Il faut savoir que l'IA ne remplace pas à 100% l'humain, parfois, et qu'il faudrait avoir une certaine couche, en fait, par rapport à son utilisation, c'est-à-dire on va l'utiliser pour améliorer le travail, mais on a quelque chose à faire en plus. Il faut avoir de l'éthique pour savoir que, dans certains cas, il est important de préciser qu'on a utilisé une IA pour avoir ce résultat-là.
Exact.
Pour que les gens en face puissent savoir que c'est l'IA qui a permis de générer ce résultat-là. D'accord. Et donc, pour avoir le comportement qu'il faut vis-à-vis de ça.
Donc, c'est une question de transparence.
Ouais. Exactement. Donc, il y a tout un accompagnement à faire plutôt dans l'usage, quoi, de l'IA et dans l'appropriation de la technologie par les différentes communautés.
Voilà. Parfait. Je trouve que c'est excellent, en tout cas, de le préciser comme ça. Et moi, je trouve un réel plaisir, en tout cas, dans l'échange que nous avons pu avoir aujourd'hui. Je termine généralement ces échanges-là par une question qui est très, très ouverte. Est-ce que vous avez, ces derniers jours ou ces derniers mois, regardé une série ou lu un roman en particulier que vous aimeriez partager avec nous et avec tous les auditeurs?
Un livre, c'est un livre hein, qui parle, j'ai oublié le titre, c'est un livre en fait qui parle des sociétés qui choisissent de tomber, c'est un titre en anglais, il faut que je retrouve le nom.
D'accord. Donc,
pour dire que les sociétés choisissent en fait de tomber ou bien de rise.
Se relever.
Donc, voilà, se relever. Et c'est en société, en fait, qu'on peut construire l'avenir de notre société. Donc, c'est à nous de bâtir notre avenir. Donc, soit on choisit de tomber
okay.
dans la société parce qu'on se fait de la guerre ou parce qu'on est dans une dynamique de concurrence extrême.
Okay.
Ou soit on choisit de collaborer. Donc, pour savoir, en fait, ce qu'on veut faire de notre avenir, donc pour grandir ensemble.
Parfait. Bah, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant et le mot est bien dit. C'est que c'est en société qu'on choisit de s'élever ou de se tirer vers le bas. En tout cas, Monsieur Ndiaye, moi, je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Je vous remercie infiniment pour ces échanges-là, pour le temps que vous avez pu passer avec nous et avec les auditeurs. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous souhaitez mettre en avant avant qu'on
Juste vous remercier hein, pour cet échange. C'était un plaisir de partager toute cette réflexion avec vous. Donc cet échange très fructueux, très très intéressant. Et le dernier mot en fait, c'est juste de dire que l'IA est là et donc de sensibiliser surtout les politiques publiques, les gouvernants africains pour leur dire que l'IA n'est pas quelque chose qui est très très loin et ce n'est pas quelque chose qui n'est pas accessible et de faire confiance à nos communautés, de travailler avec nos communautés pour bâtir en fait une société qui utiliserait l'IA, qui serait construite en Afrique pour régler les problèmes africains et les problèmes du monde et que il faut y aller. Voilà.
Parfait. C'est très très bien dit. En tout cas, merci encore à vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast. L'objectif, c'était de parler d'intelligence artificielle, des biais algorithmiques, des perspectives de l'intelligence artificielle en Afrique et dans le monde de manière générale. Nous avons été ravis, en tout cas, d'échanger, de vous présenter cette approche-là, de vous présenter le contexte dans lequel on évolue et nous sommes vraiment à l'écoute des propositions que vous pourriez y avoir, que ce soit en commentaire ou après avoir écouté directement ce podcast. Merci à vous, merci à chacun et à chacune de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci à Monsieur Ndiaye pour ce moment et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Innocent Parle.